Arsena présente des apéros livres. Jeudi 4 avril 2024, Gwenola David recevait Bertrand Guical, Claudine Dussolier et Michel Peraldi à l'occasion de la parution de leur ouvrage « Générique vapeur, 40 ans de théâtre de rue » aux éditions Deuxième Époque.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet apéro-livre consacré à Générique Vapeur, 40 ans de théâtre de rue, publié aux éditions Deuxième Époque. Nous recevons Bertrand Guical et Michel Peraldi qui ont écrit cet ouvrage, ainsi que Claudine Dussolier qui a dirigé la publication. Alors, quelques mots pour vous présenter. Bertrand Guical, vous êtes journaliste, spécialiste de la chanson française, mais aussi directeur général du média numérique d'information Newstank Culture, qui traite d'économie et de politique de la culture. Et vous êtes aussi membre du conseil d'orientation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Michel Peraldi, vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS, études des écoles des hautes études de sciences sociales. Et Claudine Dussolier, vous dirigez la collection consacrée aux arts de la rue aux éditions Deuxième Époque. Et vous êtes aussi ingénieur culturel, membre de Transversité, et vous enseignez dans plusieurs masters. Et puis nous avons aussi le plaisir d'accueillir Cathy Avran, co-fondatrice, co-directrice de Générique Vapeur. Alors c'est un livre qui retrace 40 ans d'aventures que l'on découvre trépidantes, mais tout a un début. Et on se dit, mais comment ont-ils découvert cette compagnie, ces auteurs qui ont consacré beaucoup de pages et d'encre pour nous faire partager cette aventure. Bertrand Guical, est-ce que vous pourriez nous dire, nous raconter votre souvenir, ce premier spectacle de Générique Vapeur?
Justement, je ne sais pas très bien.
C'était à la maternelle.
Je ne sais pas très bien quel est le premier spectacle de Générique que j'ai vu. J'aurais tendance à dire bivouac. Parce que bivouac, on l'a tous vu 12 fois, 22 fois, 44 fois.
Oui, il a joué 600 fois, je crois.
On l'a tous beaucoup vu. Il est possible que non. Il est possible que j'ai, justement, en travaillant sur le livre, je me suis posé la question. Et je ne suis pas absolument sûr.
Vous avez des images, c'était quoi cette première impression?
Mais cela dit, moi, j'ai j'ai un souvenir extrêmement fort avec Générique, qui est peut-être presque plus fondateur qu'un spectacle. C'est entendre Pierrot, en collège.
Pierre Berthelot, co-fondateur de Générique Vapeur.
Qui est à la cantine à Aurillac. Je suis en train de déjeuner avec je ne sais plus qui, un confrère. Et j'entends derrière moi un type avec une faconde, un vocabulaire extraordinaire, un vocabulaire de cinéma, de personnage de cinéma. On croirait que c'est écrit par un dialoguiste et qui explique que c'est le bordel, que ça ne va pas, il voulait faire passer la voiture, il y avait trop de monde, il y avait trop de trucs. Et il a un discours qui me raconte en creux ce que devraient être idéalement les arts de la rue.
C'est-à-dire
une espèce de liberté, une espèce de fluidité. Et c'est cette époque, on est début-milieu des années 90, où dans les grands festivals des arts de la rue, on commence à avoir des problèmes de place, on commence à avoir des problèmes d'encombrement. Il y a trop de monde pour les spectacles. Donc ça devient difficile de faire surgir une image qui a été prévue par personne. On ne peut pas improviser dans l'espace, on ne peut pas... tout est de plus en plus réglé parce que de toute façon, à Aurillac comme à Chalon, tous les espaces qui ne sont pas occupés par lui ne sont occupés par le off ou les marchands de merguez. Donc il n'y a plus aucun espace libre pour improviser, pour jeter des choses comme ça. Et moi, je suis journaliste, je suis critique, je n'écris pas que sur les arts de la rue, j'écris sur plein de formes artistiques différentes. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est la méthode, c'est la manière, c'est ce qui construit la forme. Et dès les premières années où je travaille sur les arts de la rue, donc c'est 95, 96, 97 par là, je découvre qu'il y a des compagnies qui sont plus intéressantes que d'autres. Je ne vais pas dire lesquelles sont les moins intéressantes, mais il y a quelque chose que je trouve passionnant chez Générique, chez Opposito, chez Davis Dada, chez les Hoff, chez Buratini. J'aime pas tous les spectacles, j'aime pas tout, j'aime pas toutes les personnes. Mais il y a des gens qui écrivent quelque chose qui me semble aussi intéressant que ce que fait Björk ou PJ Harvey dans le rock à la même époque, qui arrive à travailler avec la forme et avec le désir et à renouveler le désir. Vous savez, quand on est journaliste, qu'on est critique, qu'on voit au moins un spectacle par jour, c'est de ça qu'on a envie, c'est de ça qu'on a besoin. C'est-à-dire de gens qui font bouger des choses, et c'est progressivement que je découvre qu'il y a une longue histoire avant. Et puis surtout que on vient, alors ça c'est personnel, mais on vient un peu du même creuset intellectuel et politique, eux et moi.
Les années 90, c'est en effet le moment où les festivals se mettent à fleurir un peu partout en France, avec une affluence de public absolument impressionnante. Donc ce qui change effectivement le rapport des œuvres. Et vous, Michel Peraldi, comment est-ce que est né cet émerveillement, cette étincelle?
Je ne suis pas du tout émerveillé par leur boulot. Je reste d'une froideur de glace devant leur petite machine. Non, moi j'ai rencontré Générique et Ilotopie parce que c'est les deux groupes avec lesquels j'ai le plus d'amitié et d'affinité, par le biais de quelqu'un qui s'appelle Michel Crespin, qui a été pour moi fondateur parce que, alors c'est très anecdotique, mais moi je suis anthropologue, donc, et en plus de ma culture néo-prolétarienne, le théâtre ne fait pas partie de ma culture. Voilà. Ça tombe bien parce qu'ils ne font pas de théâtre en plus, c'était très bien. Mais je bossais à l'époque dans un organisme qui s'appelle le Plan Urbain, qui était un organisme du ministère de l'Équipement, et à qui Michel Crespin. Donc Michel Crespin, c'est un type qui avait monté quelque chose que les Parisiens peut-être dont les Parisiens se souviennent, qui s'appelait la Ferme du Buisson, qui était un truc à Marne-la-Vallée, qui était une des premières expériences, non pas de théâtre de rue, parce que Michel Crespin, le théâtre de rue, c'était pas son, il était plus dans l'organisation, plus dans c'était plus un entrepreneur de spectacle qu'un producteur. De spectacle.
Il avait quand même fait La Falaise des Fous en 1980.
Le moment fondateur.
Non, mais
ce que je disais n'était pas critique parce que j'aimais beaucoup le personnage et Bertrand a raison, on a affaire à des gens qui sont. C'est des gens magnifiques, c'est des gens merveilleux qui ont de la faconde, qui vivent, qui sentent des pieds. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît chez eux. Voilà. Par différence avec les fonctionnaires du plan urbain avec lesquels je travaillais à l'époque. Et donc Crespin avait eu le nez d'aller demander de l'argent au plan urbain, qui à l'époque commençait à s'intéresser à la question du réenchantement des villes et qu'est-ce qu'on peut faire sur le pays des machins. Et donc ils m'ont envoyé, moi, petit anthropologue à l'époque, pour regarder ce machin, en regardant ce qui se passait. Il se trouve qu'on a eu d'emblée des affinités, etc. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser au théâtre de rue. Et puis ce qu'on a en commun avec les Génériques, et c'est Marseille, je veux dire, on est... Alors, pas de, s'il vous plaît, parce que sinon elle va s'énerver en claquant la porte, Cathy, parce que pas d'identitaire, non mais elle va partir. Donc on n'est pas des identitaires, on n'est pas des Marseillais, marseillologues, on n'est pas mais Marseille, c'est pour nous un laboratoire à la fois culturel, social, un lieu de vie et d'activité, de créativité. C'est une matrice créatrice, Marseille, pour nous. Et c'est valable pour moi en tant qu'anthropologue, j'ai beaucoup bossé sur Marseille, et c'est valable pour eux en tant que création. Et donc on s'est retrouvés autour de ce champ qui était la ville, le théâtre, etc. Pour moi, une des grandes opérations marquantes à laquelle a participé Cathy, en tant que, pas en tant que générique, mais en tant qu'acteur, et Pierrot aussi, c'était une opération qui s'était appelée PLM, Palace à loyer modéré.
Avec l'utopie,
et il se trouve que moi, je participais à un groupe à l'époque qui s'appelait le Serfiz, Serfiz Sud-Est, et on faisait des opérations de rénovation des cités en participation avec les habitants. Et comme on était dans les petits papiers de certains organismes HLM, on était arrivé à leur vendre ce truc, mais totalement fou, qu'a été Palace à loyer modéré. C'est-à-dire qu'on a vendu à des organismes HLM l'idée qu'on allait faire une sorte de grand spectacle à l'intérieur d'une cité qu'on allait transformer en palace, réellement.
Pour les habitants.
Pour les habitants, bien sûr.
Donc, c'était pas mal, en
je me souviens que Cathy était une soubrette fort à Corte à l'époque.
Femme de chambre, justement.
Qui était femme de chambre, soubrette, c'est une soubrette. Hein.
Oui, mais je montais quand même 8 étages à pied parce que l'ascenseur était toujours en panne.
Ah oui. Et donc, voilà. Et
ouais,
donc,
ça, loyer modéré, c'est un choc auquel.
Et c'est un truc que les institutions locales, les élus locaux, ont pris dans la figure exactement comme s'ils avaient appuyé sur le râteau et qu'ils prennent le manche dans la figure. Et donc, moi, je suis ravi qu'on ait fait ça. Et surtout qu'ensuite, les habitants ont dit, bon, bah, on s'est bien amusé, c'était vachement sympa votre truc, maintenant, on commence la réhabilitation. Et les organisations HLM ont dit, ah, mais non, c'était pas du tout prévu. Et donc, il y a eu comme ça un jeu politique. Alors, on s'était pris beaucoup, beaucoup de critiques des travailleurs sociaux de l'époque sur la cité. Il avait été très sauvagement critique envers cette opération. Mais moi, j'ai vu cette opération comme un enchantement, vraiment, comme un truc... Une vraie opération surréaliste au plus fort sens du terme, et j'ai adoré ça, voilà. Et du coup, on est resté en contact. En plus, il se trouve qu'ils avaient investi un lieu à Marseille qui était les abattoirs, et on mangeait très bien aux abattoirs. Et donc, j'allais souvent manger à la cantine des abattoirs avec Cathy et Pierrot, voilà.
On voit
donc, vous voyez le niveau intellectuel le haut niveau heideggerien de ce...
Non, mais on voit quand même se dessiner certaines caractéristiques du travail de Jeanine Piper, notamment cette emprise sur la réalité politique, sociale, cette volonté aussi d'embrasser ce qui va questionner la société. Et c'est marrant, la rencontre que vous citez, organisée par Michel Crespin et Fabien Janel à la ferme Buisson, qui était à l'époque à Marne-la-Vallée, c'est une rencontre d'artistes d'espace libre. Alors, ça rebondit un peu sur ce que vous disiez, Bertrand Dickel, puisque cette liberté, c'est vraiment ce qui a marqué le début de cette aventure. Claudine Dussolier, donc vous qui enseignez, qui avez un regard très panoramique, cette compagnie donc, vient de fêter ses 40 ans. En 1983, Générique Vapeur naît, avec un sous-titre assez intéressant, puisque c'est « Trafic d'acteurs et d'engins ». C'est créé par Cathy Abraham, qui se définit comme cantatrice rock, et Pierre Berthelot comme comédien d'engins. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cette compagnie surgit dans le paysage, et quel est le paysage d'alors?
Moi, j'ai découvert que les arts de la rue étaient un corps quasi constitué, quand j'ai intégré l'équipe de direction du parc de la Villette, donc en 93-94. Avant, je connaissais des artistes, j'avais vu des spectacles en espace libre, j'avais vu pas mal de choses en ignorant absolument que ça pouvait être un mouvement. Et je l'ai découvert à la Villette, en même temps que beaucoup, beaucoup de compagnies, dont Générique Vapeur, dont Ilotopie, enfin toutes celles qui ont déjà été citées d'ailleurs, renforcées par le fait qu'avec Hors les Murs, qui s'est juste créé sa scission avec le public en 1994, il y a eu l'envie de la part de Hors les Murs, de son président de l'époque, Louis Joinet, et Jean-Luc Baillet, que les rencontres professionnelles se passent à la Villette. Et c'est à mon niveau, comme ça que j'ai découvert ce mouvement qui, pour moi, m'intéressait d'autant plus que ma formation initiale, c'est de géographie urbaine. Et donc, tous les rapports à l'espace et cet entrechoquage entre des interventions artistiques très polymorphes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité, très grande différence dans les compagnies. La façon dont ça, il y avait une revendication encore dans cette année-là de cette liberté dont il est question. Donc après, Générique Vapeur, je les ai connus à ce moment-là, mais c'est vrai que quand on a entrepris le bouquin avec cet équipage et Pierre et Cathy, on s'est d'abord enfermé pour essayer de mettre sur la table tout. On commençait par des années antérieures, même à 83. De manière à pouvoir dégager des fils conducteurs de ce livre. Et ce qui apparaissait, parce qu'il y avait quand même une gageure de traverser 4 décennies, c'est quand même pas rien. D'abord, il y a une question de mémoire et d'archives, évidemment, pour arriver à retrouver tous les documents, de mémoire aussi personnelle, de mémoire orale, donc de Cathy et de Pierre en particulier, et aussi après de l'organiser de manière à ce que ça puisse être une histoire compréhensible et en même temps qui puisse justement donner peut-être à percevoir la différence qui a pu, ou l'évolution aussi de notre rapport à la fois au spectaculaire dans l'espace public, à l'ensemble de ces formes qui étaient voulues aussi par des villes, voulues par des organisateurs, voulues par des programmateurs, mais avec des évolutions aussi au fil du temps. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé la forme du livre dans ces trois parties, et surtout les deux premières. Mais c'est également comme ça qu'on est rentré dans le détail de la genèse, pour finir par répondre à ta question, sur 83. Donc j'ai découvert comment Pierre et Cathy s'étaient rencontrés, venant de tout simplement du Royal de Luxe, ouais. Et l'autre... C'est reconduite, merci, parce que j'étais en train tout d'un coup de mélanger les noms, ce qui est fort fâcheux ce soir.
C'est Zéro de Luxe et Royal de Conduite.
Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Et au fond, voilà, ce qui est intéressant, et là aussi où cette équipe éditoriale s'est retrouvée dès la première résidence, c'est que, y compris les années précédentes, la création même de Générique, ont été des années très importantes, à la fois pour Pierre et Cathy dans leur itinéraire personnel, dans les idées, dans les utopies, mais ça peut-être que Cathy pourra, ou Bertrand, en parler plus précisément, mais également de l'époque dans laquelle on était, et quand on fait référence à des engagements politiques, à des visions, je pense que c'est aussi toute cette matière et tout ce retour qu'on a dû faire tous en retraversant ces 40 années qui, en même temps, ont scellé l'intérêt que chacun à trouver à ce projet éditorial.
Donc on est en 1983 dans cette phase de développement de ce qu'on va finir par appeler les arts de la rue, après avoir appelé ça le théâtre de rue, le théâtre des les artistes en espace libre. Donc on sent que les appellations tâtonnent et il y a quelques grandes compagnies qui ont déjà frayer leur chemin. On parlait de Théâtre Acide de Michel Crespin. Il y a également Île Utopie qui a été créé quelques années auparavant. Il y a Royal de Luxe et Générique Vapeur qui arrive avec une esthétique quand même très 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 particulière. Qu'est-ce qui, pour vous, Bertrand Dical, fonde la singularité finalement de la démarche de Générique Vapeur qui fait que c'est lui, pas un autre au fond? Parce que quand vous nous le racontez, on a l'impression que vous y étiez. C'est ça qui est génial.
Et ce qui est intéressant avec Générique Vapeur, mais avec toutes les grandes entreprises artistiques qui révolutionnent et qui changent quelque chose à une discipline, c'est que je n'ai pas l'impression qu'à aucun moment, Cathy et Pierre se soient dit « Tiens, on va faire des arts de la rue, on va changer quelque chose aux arts de la rue ». C'est une histoire de deux personnes. L'un qui a voulu faire du cinéma, qui s'est rendu compte que non, le cinéma c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop long. On ne peut pas dire tiens, je veux tourner ce plan-là, le tourner, et que le lendemain ça se trouve dans un cinéma. On serait aujourd'hui, avec cette envie-là, un jeune Pierrot de 25 ans, ou de 22 ans, aurait peut-être une chaîne YouTube révolutionnaire. Mais en tout cas, dans cette époque-là, le cinéma, ça ne va pas. C'est un fou de fer à souder, de clé à molette. Il aime mettre les mains dans un moteur. C'est une passion. C'est un plaisir. C'est même un peu, par moments, une obsession. Donc, il y a ces deux choses. Cathy, elle vient de l'antipsychiatrie. Elle vient d'un certain gauchisme. Elle vient de cet endroit où pardonnez-moi la formule, elle est comme ça, mais où Derrida croise en classe Baader, il y a soudain cette envie de changer la société, de changer l'âme, de changer sa vie, de changer la rencontre avec Zéro de Conduite, alors qu'elle n'a pas spécialement envie de devenir comédienne, de devenir musicienne, de jouer de la musique, de chanter. Mais il y a chez l'un et l'autre l'utopie, l'envie de faire, le besoin de faire. Et c'est très important dans cette époque, fin des années 70, début des années 80, si on fait la séparation dans les bandes de copains, dans les groupes politiques, dans les syndicats étudiants. Il y a ceux qui font et ceux qui défendent. Il y a ceux qui veulent abattre le monde. Et ceux-là, on va les voir se promener avec des valises, avec des objets en métal, avec des gâchettes et de la poudre. Et il y en a d'autres qui vont faire des livres, du cinéma, des arts de la rue. Et eux, ils sont là, ils sont à cet endroit-là. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le projet d'être dans les arts de la rue qu'ils vont faire des arts de la rue, qu'ils vont aller là où on peut faire les choses et sans se poser de questions de discipline, d'indiscipline, d'esthétique, de lien esthétique avec d'autres. Ils ont un lien avec Illotopie au départ, ils sont des compagnons de route d'Illotopie. Pierre est un peu l'esprit malin, mécanicien, organisateur du premier Royal de Luxe, parce qu'il est quelqu'un d'important de Royal de Luxe, contre Royal de Luxe. Et c'est cette envie de faire et cette envie de dire, bon ben, il va y avoir quelques années plus tard un geste extrêmement important. On pense une voiture de flic, une tapette à souris qui écrase la voiture de flic. Ben, on peut crayonner un truc, on peut dire ouais, ça serait marrant, et puis on peut le faire. Et ben oui, ils le font. Ils font des voitures avec, avec un arbre, et c'est un espace vert qui se promène dans la ville. Et c'est cette idée du faire qui est dans tout un univers très, très utopiste, très radical, et qui est que, oui, certainement, on n'arrivera pas à faire une révolution, parce que c'est trop de boulot, pour ça, il faut des Lénines, il faut des circonstances, il faut une guerre civile, mais en revanche, révolutionner quelque chose dans l'art, dans la tête, dans l'espace urbain, ça, on peut le faire. C'est pour ça qu'ils le font.
Et ils ne le font pas n'importe quoi, parce qu'en général, leurs interventions ne passent pas inaperçues. Ce côté bricolo de Pierre Berthelot se retrouve, parce que... je ne sais pas si on a compté le nombre de voitures qu'il a découpées, remontées à l'envers, à l'endroit, les bus, les camions, etc. Mais il y a d'emblée une intervention dans la ville qui est assez monumentale, qui est assez intempestive. Cette fameuse voiture coincée dans une tapette à souris, elle n'est pas mise n'importe où. Ça prend sens parce qu'elle est mise en plein milieu et sans autorisation d'ailleurs, de la Vieille Charité, qui est un musée. Et donc, il y a quelque chose qui tout de suite prend une dimension politique à travers cette subversion de l'espace public qu'entreprend Générique Vapeur.
Il y a quelque chose qui déjoue à la fois l'institution, le public, les confrères de Générique, parce que tout le monde admire Générique, mais il y a un certain nombre d'acteurs des arts de la rue qui n'ont pas que de l'affection pour Générique. Il y a quelque chose qui fait que Générique déjoue tout le monde et prend tout le monde à contre-pied, c'est que quand on attend d'eux un geste purement artistique, le geste va devenir politique, et quand on attend d'eux un geste politique, c'est un geste artistique. Et il y a quelque chose de fascinant chez ces deux activistes de l'art, de la pensée, de l'utopie, c'est qu'ils sont indisciplinés avec eux-mêmes. C'est-à-dire que leur travail de révolution ne s'étend pas qu'à l'art, il s'étend à eux-mêmes, il s'étend à leurs compagnons, Cathy avec Pierrot, Pierrot avec Cathy, à leur équipe. Et il y a en permanence quelque chose qui est de l'ordre de la jubilation, et c'est ça qui est absolument délectable quand on feuillette les archives, quand on les entend raconter, quand on entend les autres qui racontent. C'est qu'il y a tout le temps une idée de sale gosse, un truc extraordinairement enfantin, presque puéril, de se dire « Ah ben tiens, gna gna, on va le faire !»
Et même dans leur rapport aux politiques, puisqu'on suit tout le cheminement de la compagnie qui, en 86, arrive à Marseille, qui, au départ... squatte différents lieux, dans une petite rue, une ancienne usine, un ancien cinéma qui finalement va s'installer 3 ans plus tard dans les anciens abattoirs. Donc il y a un rapport aussi aux politiques assez complexe, puisqu'il y a cette façon de squatter des endroits de façon plus ou moins tolérée, Il y a aussi une façon de répondre à des commandes de la municipalité pour des événements, donc il y a un rapport aux politiques de commandes, mais en restant totalement indiscipliné dans la façon d'y répondre. Donc c'est toujours un peu ambivalent dans la façon dont Générique Vapeur finalement s'inscrit à la fois dans la ville et un peu en marge.
Alors, il y a quelque chose de dingue, c'est que oui, il y a ça. On peut théoriser sur Générique Vapeur et la ville, mais Michel, au secours, il y a quand même un truc, c'est que la ville, c'est Marseille. Il faut se rendre compte qu'ils squattent pendant quoi, 22 ans les abattoirs, squatteurs en 22 ans. Donc les gens de la mairie viennent, ils viennent au cocktail, ils viennent voir les représentations, et à aucun moment ça ne gêne personne que ces gens soient là, sans aucun titre légal, en totale illégalité, font des branchements électriques, rendent service, travaillent avec des gens des services techniques de la mairie qui viennent en dehors des heures de travail, avec le matériel, enfin bref, des trucs complètement alambiqués, que aujourd'hui encore, à la Cité des Arts de la Rue, Générique Vapeur n'a pas de titre, pas de bagne, occupe un lieu sans titre légal. C'est aussi une chance extraordinaire, et une malchance, mais certainement une chance extraordinaire, qui n'est pas choisie au départ, c'est qu'ils sont à Marseille. C'est Marseille.
Qui est une ville aussi particulièrement cosmopolite. Ils ne sont pas intégrés, basés n'importe où. Hein. Les abattoirs, c'est plutôt les quartiers nord. Le voisinage, d'ailleurs, entretient un rapport un peu compliqué et complexe avec les abattoirs. Hein. Ce n'est pas toujours évident, finalement, de faire venir cette culture un peu subversive chez des habitants qui ne l'attendent pas, qui ne sont pas habitués à ces démarches-là. Mais effectivement, ça n'est pas n'importe quelle ville. Et c'est aussi une des particularités de Générique Vapeur que d'interroger ou de s'inscrire dans l'espace public et de chercher un rapport particulier avec les gens, en fait.
C'est
à vous que je pose la question.
Je sentais que ça allait
venir. Ah ouais, ça allait venir. Je
trouvais qu'il était bon, pourtant, donc j'aurais goûté 2 heures. Donc, oui, alors c'est très compliqué, en fait, cette histoire. Si vraiment on le prend au sérieux, c'est très compliqué. Pour plusieurs raisons. Je vais essayer d'être très bref, je m'excuse, mais c'est vraiment une histoire compliquée. D'abord, Marseille, je ne suis pas d'accord sur le caractère cosmopolite de Marseille. Par contre, Marseille, c'est une ville, c'est une des rares villes encore aujourd'hui, et déjà dans les années 80, dans lesquelles les mondes populaires occupent l'espace public. Le centre de Marseille, c'est un lieu populaire. C'est des lieux dans lesquels les mondes populaires sont à leur aise, à leur avantage, etc. Et aujourd'hui, pour l'anthropologue urbain que je suis, il reste 2 villes en Europe dans lesquelles c'est vrai, c'est Naples et Marseille, dans lesquelles les mondes populaires sont encore à leur place au centre de la ville, au cœur de la ville, dans l'espace public. Et c'est quelque chose qui s'est noué aussi dans ces années 80, parce que c'est aussi une ville qui change. Marseille a été gouvernée par ce qui est probablement le système politique le plus archaïque et le gouvernement local le plus archaïque qu'on ait pu avoir, avec Gaston Defferre qui prend le pouvoir en 45 au bout de la mitraillette, qui lutte toute sa vie contre son pire ennemi qui est le Parti communiste. Vous voyez, un socialiste, le Parti communiste, vous voyez un peu le champ politique de tout ça, et qui, dans les années 80, épuisé par 30 ans de clientélisme, de gestion terrible des ressources, etc., passe la main à un maire qui s'appelle Vigourou, qui est un adjoint de la culture, qui est un poète, qui est une époque de transition dans laquelle, je pense, l'ensemble du système politique essaye à la fois de perpétuer quelque chose, parce que c'est des partis, parce qu'il faut être élu, parce qu'il faut garder des institutions, et en même temps, joue des ouvertures sur tout un certain nombre de choses. Et Générique, comme d'autres, mais Générique notamment aux abattoirs, a fait partie de cette histoire de, en quelque sorte, de renouvellement. Et ce renouvellement politique et social de la ville, moi je le vois comme une espèce de petites ouvertures, des choses qui se fissurent par-ci, par-là, et dans lesquelles s'engouffrent précisément des créatifs. Et c'est ça qui a fait, moi je trouve, c'est ce qui fait la vitalité de Marseille, à partir de cette époque, parce qu'avant ça, enfin, il faut considérer quand même, je sais qu'aujourd'hui c'est très à la mode de dire Marseille, ville créative, la Movida, machin et tout, il faut voir Marseille dans les années 70-80, c'est un glacis, c'est une province fermée à 7h du soir, lumière éteinte, il ne se passe plus rien. Il n'y a que le théâtre de la Criée, où il se passe des choses, mais dans un espace très conventionnel, très discipliné, pour reprendre tes mots. Donc, je veux dire, il faut voir. Et ça, tout ça se déchire à partir des années 80, et dans une ville, et je finis là-dessus, mais c'est très important, dans laquelle le mètre carré ne coûte que dalle. Alors, c'est vrai que ça fait un peu sociologue de raccord en disant ça, mais c'est une ville dans laquelle il y a des friches disponibles à peu près partout. C'est la ville la moins chère d'Europe. Vous imaginez, Marseille, c'est la ville la moins chère d'Europe à cette époque-là, au bord de mer, etc. Bon, vous voyez le truc, quoi. Et donc, vous avez comme ça toute une série d'investissements qui viennent petit à petit et qui vont lancer ce processus à la fois de reconquête et de réenchantement de la ville. Le problème dans nos sociétés qui sont, comme vous le savez, des sociétés capitalistes plutôt néolibérales, c'est que quand on est dans cette position-là, ça ne dure jamais très longtemps. Derrière les artistes, il y a toujours des promoteurs qui sont derrière les platanes. Ils les regardent et puis, dès qu'ils ont eux aussi l'ouverture, paf, ils s'engouffrent là-dedans. Et donc, on sait très bien qu'on vit des épiphanies. Moi, je le dis comme ça. Quand on est dans des logiques créatives et ces moments de basculement, on sait très bien qu'on vit des épiphanies. Et je pense, on en discute souvent avec Attilio Pierrot, je pense qu'on a vécu des moments d'épiphanie qui aujourd'hui sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Et cette ville qui était une ville populaire, qui était une ville dans laquelle, quoi qu'on fasse, on était confronté à des mondes populaires, parce qu'il n'y a pas que les quartiers nord, il y a le centre-ville, Noailles, les quartiers de marché, etc. Quoi qu'on fasse dans cette ville, on avait un interlocuteur populaire. Les mecs qui allaient faire du théâtre de rue à Soho, à Londres, dans les années 90, les mondes populaires, c'était devenu une fiction à partir desquelles on pouvait s'arranger entre soi, dans des entre-soi bourgeois, dans lesquels on pouvait parler des mondes populaires. Là, ils sont là, on est toujours confronté à eux. La friche de la Belle de Mai, elle a été confrontée à des mondes populaires. Les gens qui ont travaillé dans le centre-ville, Schnorko, qui est allé travailler dans les quartiers nord, étaient confrontés, le Prélocage qui est allé travailler dans les quartiers nord, ils ont été confrontés au monde populaire. On ne pouvait rien faire sans être confronté à ces mondes-là. Et cette confrontation, soit elle est créative, soit elle est explosive. Ben, dans ce cas-là, elle a été créative parce que c'est des gens intelligents, parce que c'est des gens qui aiment le peuple, etc. etc. Voilà. Mais c'est fini.
Elle a été créative aussi parce que Générique Vapeur a peut-être participé de ce réenchantement de la ville par ce que vous disiez, Bertrand Dical, de se faire, c'est-à-dire cette volonté de faire, qui se traduit d'ailleurs dans une des lignes directrices peut-être de la compagnie, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des spectacles qui vont faire répertoire, on a cité quelques-uns, Bivouac en 88, Taxi en 97, entre les deux il y a eu La Petite Reine, qui sont des spectacles qui vont tourner dans le monde entier. Bivouac doit être peut-être à sa 800e représentation. Mais à côté de ça, il y a des impromptus et on voit dans la liste des spectacles des tas de moments, de circonstances où Générique Vapeur, y compris pendant le confinement, va tout d'un coup se dire « Ah là, il y a quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et puis, il y a ces façons aussi d'intervenir avec ces spectacles qui sont regroupés sous le titre générique « Urbain à toute heure ». Donc, beaucoup de modalités d'intervention dans la ville avec une réactivité assez forte aux différentes circonstances, aux différentes configurations. Et ça reste quand même aussi une marque de fabrique de cette compagnie qui ne va pas se contenter de faire des spectacles, de les répéter dans son huis clos et ensuite de les tourner dans le monde entier.
Alors, ils ont cette idée d'une compagnie un peu boîte à outils, qui est capable d'improviser, qui est capable de... Alors, c'est vrai que quand on dit improviser dans le théâtre, on imagine toujours le texte, on imagine toujours le mime. Eux, ils improvisent avec des grosses formes pour des milliers de gens. Ça veut dire des véhicules, des camions, de la sono, de l'éclairage, des fumigènes, des artifices, des véhicules. Donc à peu près chaque fois que Pierre et son équipe créent un véhicule, un camion avec un moteur, une voiture avec, qui crache le feu avec un brûleur de montgolfière, il y a toujours un usage pour un spectacle. Et puis ensuite, ben, ça servira à autre chose. Et cette idée que tout sert à autre chose, et quand on parle de la confrontation au monde populaire, c'est quelque chose que souvent, le théâtre de salle est incapable de faire. Et j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, on se pose dans le monde de l'opéra, dans le monde du théâtre de salle, privé comme public, on se pose la question du remploi des décors, du remploi des scénographies. Le fait que dans les musées, on n'arrive pas à remployer les éléments de scénographie. Parce que pendant 2 siècles, 3 siècles, on a construit des choses qui ne servent qu'une fois. Je pense qu'il faut que tous ces gens aillent en cours faire des stages chez Génique. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose pour cet endroit-là, uniquement, ce moment unique, cette image unique dans un spectacle unique, et cette image va ressurgir ailleurs. Et là, il y a quelque chose qui touche une espèce d'impensé, une espèce de ressenti des publics urbains, des publics populaires, qui est ce sentiment que ben, c'est des gens qui bouinent, ils travaillent, ils ont générique à ce génie, alors, il y a quelques autres compagnies comme ça, mais ils ont ce génie de ne pas dissimuler le fait que ce soit un métier, un travail, une technicité, des gens qui sont au taf. Et c'est certainement ça qui fait que, contrairement à d'autres formes artistiques, parfois confrontées avec les mondes populaires ou avec l'espace public, il n'y a pas de problème avec le générique dans la rue et avec cette génération, cette éthique des arts de la rue. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très vaste, qui est à la fois artistique, méthodologique, presque professionnel, mécanique. Il y a quelque chose qui tient du métier et de la poésie. Les deux en même temps. Il y a autant de métier que de poésie. Il y a autant de technicité que de feeling. Et c'est ça qui fait quelque chose de très singulier, qui fait qu'effectivement, régulièrement, ils ont en 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, improvisé, monté des spectacles, des parades pour 500, 2000, 3000, 5000, ce qu'il y a.
D'ailleurs, Pierre Berthelot se définit comme un artiste artisan. Donc, il y a cette notion du faire, cette notion de recyclage aussi, parce qu'il y a très peu de voitures, j'imagine, qui ont été commandées toutes neuves chez le constructeur. C'est plutôt toujours de la récup. C'est toujours des objets du quotidien qu'on va retransformer. On va leur redonner une vie. Donc, il y a déjà, dès l'origine, avant même de réemployer les éléments de scénographie d'un spectacle à l'autre, le point de départ, c'est quand même aussi cette récupération, cette façon de faire. Et de le faire à plusieurs, parce que ce qui est aussi impressionnant, quand on lit le bouquin, c'est de voir à quel point, on parle de Cathy, Abraham et Pierre Berthelot, mais Ginéry Valpeur, c'est toute une troupe, c'est énorme. La liste des gens qui sont passés par la compagnie, elle fait 3 pages. Donc c'est aussi plein de corps de métier, c'est aussi une aventure très collective finalement, et ça... On le voit dans une des parties du livre où vous avez sollicité beaucoup de propos de tous ces complices, ces compagnons de route, Claudine Dussolier.
Oui, en fait, ça nous paraissait important aussi de ne pas raconter l'histoire que de l'intérieur à travers le travail en particulier qu'a fait Bertrand par les interviews et en particulier avec Cathy et Pierre, bien sûr, mais quelques autres aussi. Mais que, au fond, au fond, il y a quelque chose d'essentiel, surtout en termes de rue, c'est le lien avec l'environnement, l'extérieur et autres. Et donc, c'était important, vu aussi toute l'importance de ces compagnonnages extrêmement divers à Marseille, mais pas seulement, hein, vraiment partout, de poser la question à des personnes avec qui ils avaient fait des choses, ou pour lesquelles ils avaient fait des choses en 83, en 84 et jusqu'à 2023. Pour leur demander de parler, on a été très précis dans la commande, pour telle année, tel événement, et de manière à... Et on a été en retour bien servi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, Effectivement, ça donne une sorte de portrait aussi de la de toutes ces personnes dont on parle rarement ou qui s'expriment autrement dans des endroits plus institutionnels, pour expliquer pourquoi, à un moment donné, en tant que directrice d'un musée ou conservatrice d'un musée, il y a eu cette envie de collaborer et comment ça a donné lieu à un rêve, un truc totalement improbable qui relevait à la fois du lien avec les habitants, du lien avec les lieux, donc l'aspect très, très poétique, et en même temps, la possibilité de la preuve de la faisabilité de ce rêve par cette technicité, cette méthode, cette capacité de recycler, de récupérer, de déplacer des objets pour les mettre dans des endroits incongrus et autres. Donc c'est vrai que on a pensé les doubles pages par année à travers une sorte de canevas pour lequel cette petite contribution joue un rôle important et font un paysage, je pense, qui est extrêmement diversifié, parce qu'il y a des gens des coins très différents de France, des petites villes, des grandes villes, des villages, et des gens à l'étranger, dans tous les pays du monde.
Et puis d'autres artistes aussi, c'est ça qui est intéressant.
Et d'autres artistes.
Du panorama dans lequel s'inscrit Henri Vapeur quand il émerge dans les années 80, puis du chemin qu'il fait. C'est-à-dire qu'on voit aussi se dessiner des fraternités, des affinités artistiques très fortes, qui font que les spectacles vont être créés tantôt avec telle autre équipe d'artistes. Et il y a aussi ce goût de créer à plusieurs, de créer avec d'autres, même d'autres pays, comme ça a été fait à multiples fois.
Je pense que c'est très fort chez Générique Vapeur, mais ce n'est pas propre à Générique Vapeur non plus. Et dans ce sens, c'est aussi un des aspects du livre qui rend compte de quelque chose de l'esprit des arts de la rue et du théâtre de rue qui me paraît extrêmement important et pour qui... va comparer l'histoire de Générique à travers ce livre et avec d'autres livres, d'autres témoignages, va retrouver ces logiques de filiation, d'entrecroisement qui sont quand même qui font toute la richesse et la capacité aussi d'intervenir dans des lieux très différents. On rassemble et on fabrique ensemble. Et il y a des aventures comme les Grains de Folie à Brest par exemple, qui ont été très emblématiques de cette capacité de provoquer comme ça une sorte de laboratoire poétique avec beaucoup de complicité et de se faire confiance pour tester un certain nombre de formules ou d'idées ou d'embryons d'idées et de leur donner suffisamment corps pour qu'ensuite ça puisse éventuellement aussi être recyclé. Parce que ce n'est pas seulement les objets qui sont recyclés d'une manière inventive, c'est aussi... les tentatives de performance, les tentatives de rassemblement, les collaborations qui après se transforment en peut-être en projet de création de longue durée. Et là, ce sur quoi je voulais insister, il m'a été donné de voir plusieurs fois l'équipe travailler à l'étranger, et même en France, hein, mais c'est, ce qui est frappant dans cette méthode d'approche et ce style, cette sensibilité artistique dont ils font preuve, c'est que quand il y a une balade de Pierre et Cathy dans une ville dans laquelle ils savent qu'ils vont intervenir, sans doute sur une forme de urbain à toute heure, mais sans connaître vraiment les lieux, il faut voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, quel est le rapport d'observation, d'identification des gens qui pourraient, ou des artisans, ou des acteurs qui vont pouvoir être incorporés dans la proposition à venir. Et la proposition, elle est à la fois faite de choses signées, ça peut être un bivouac ou des aspects de bivouac, mais qui vont être totalement revisités, complètement recréés avec l'incorporation de gens avec qui l'équipe a établi des liens et a su même des choses insolites qui seraient venues à l'idée de personne dans le pays en question. Je pense à Alexandrie, par exemple, aux ouvriers qui travaillent dans les hauteurs et qui se utilisent pour ça des échelles et qui sont comme des échasses en fait avec lesquelles ils travaillent. Eh bien, en voyant ça, Pierre les a invités, des ouvriers, à venir s'inscrire dans ce projet, et ces échelles ont servi à aller chercher des divas dans les étages, enfin, j'en passe des meilleurs. Et la capacité aussi de l'équipe et de Cathy de pouvoir dialoguer avec les autres artistes et aussi de pouvoir embarquer des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais fait de théâtre en extérieur, mais seulement sur scène, mais de les embarquer dans des choses improbables qui se passent dehors. Et cette façon d'assumer la relation avec la ville, avec l'espace extérieur, avec de désirer et les gens et d'aimer les contextes qui sont parfois formidables mais des fois moins drôles, mais d'assumer ces liens qui sont établis et d'utiliser ces liens, de faire du lien un élément très fort des propositions. Ça optimise, pour employer un mot d'ingénierie, ça optimise l'effet, l'impact, l'interaction avec le corps social, le corps urbain des gens. Et je trouve que c'est une signature, c'est un savoir-faire qu'on retrouve chez beaucoup d'équipes des arts de la rue, parce que c'est quand même assez névralgique, mais je suis sûre que l'équipe de générique porte ça très haut, à un endroit d'exigence éthique, artistique, sociale et politique, qui fait que enfin, qui pour moi aussi justifie pleinement qu'on investisse comme ça dans ce projet de livre, parce qu'au-delà de toute la qualité à la fois des auteurs, des artistes et tout ça, l'objectif c'était de raconter quelque chose qui va rester. Quoi.
Si je me permets, c'est quelque chose de très particulier avec Générique. C'est un peu la différence qu'il y aurait entre Leonard Cohen et Neil Young. Leonard Cohen, c'est un génie qui a fait une quinzaine d'albums. Neil Young, c'est un génie qui en a fait 70. Et il y a quelque chose chez Générique qui est de l'ordre de la générosité, mais qui est une générosité très particulière d'artiste. C'est-à-dire qu'un spectacle de Générique, ça garde le style, ce mot-là est très fort, il y a un style générique, mais en même temps, c'est très partageable. Et là où c'est vraiment étonnant, c'est que Cathy et Pierre ont cette façon d'ouvrir leur création que n'ont pas d'autres artistes. Alors, je n'ai donné aucun indice pour qu'on ne puisse pas savoir de qui je veux parler moi-même, je ne sais pas de qui je parle, en parlant d'autres artistes, mais c'est non seulement ils prêtent les clés du camion, pour le coup au sens propre, mais ils ouvrent la création à d'autres créateurs, à d'autres équipes, au génie du lieu, aux gens qui sont sur place. Si le type qui va conduire la voiture dans une parade décide de faire bouger le volant comme ça et pas comme on le fait d'habitude, ben c'est pas très grave. Au contraire, c'est intéressant. Et y a ça qui est quelque chose qui tient, qui fait leur style, c'est cette espèce d'ouverture des choses à la collaboration. Mais en même temps, ça reste toujours du générique. Si on veut une comparaison rock, c'est Frank Zappa. C'est Frank Zappa, il écrit tout, tout est écrit, tout est composé, mais sauf qu'on reconnaît immédiatement les musiciens qui sont avec lui parce qu'il les laisse improviser. C'est exactement ça.
Cette ouverture, c'est aussi une façon de continuer de parler à la ville entière, alors que les arts dans l'espace public se sont beaucoup plus, ces dernières années, centrés sur une relation plus intime avec les spectateurs, dans des jauges plus réduites, dans des formats de communication aussi très, très différents, plus expérientiels, etc. Et dans ce rapport au public qui est proposé par Générique Vapeur, c'est très mobilisateur, on ne peut pas ne pas le voir. C'est-à-dire que c'est une façon de mobiliser à la fois le public. Et vous parliez d'utopie tout à l'heure, Bertrand Ducal et Michel Peraldi, mais est-ce que c'est aussi dans cette utopie, finalement, que l'art sert à émanciper ceux qui le font, finalement, ce travail, y compris artisanal, est aussi une façon de émancipateur, créateur, créatif, mais c'est aussi une façon d'émanciper le public, ou en tout cas de lui proposer d'autres aventures que celles qu'il peut notamment trouver en tournant le bouton de la télé, en appuyant sur la télécommande aujourd'hui. C'est pour qui ?
C'est pour qui la question ? Ah, super.
Je pense que Pour moi, mais je peux me tromper, je répondrai que s'il y a cette utopie politique, c'est à travers le faire ensemble, ce qui n'est absolument pas rien par les temps qui courent, mais que l'endroit qui tient à cœur de, et qui leur tient de moteur, c'est de fabriquer du merveilleux. Et Pierre le disait encore hier soir d'ailleurs, et je ne sais pas quelle place tient le merveilleux dans l'idée d'utopie, mais de pouvoir faire vivre du merveilleux, de provoquer des transformations complètes de l'univers dans lequel vous vivez d'habitude, c'est quelque chose qui peut faire bouger aussi la représentation qu'on a de soi-même, la représentation de sa ville, et le fait de rendre possible ça. Moi, je dirais que leur utopie est une forme de modestie parce qu'ils ont, enfin, de leur part, se situe à cet endroit-là. Je la situerais à cet endroit-là. Je sais pas où.
Non, moi, j'ai un peu scrupuleux à parler de ça parce que je trouve que c'est Cathy qui en parlerait beaucoup mieux que nous. Mais bon, si on joue le jeu là-dessus, je remets ma casquette de sociologue une seconde. D'abord, pour deux choses. Je pense que dans les arts de la rue, il n'y a plus de public. La notion de public n'a pas de sens. Il y a des gens qui passent là, qui viennent et qui regardent, etc. Mais il n'y a pas cette notion de public constitué, presque mis en espace, comme c'est au concert, au théâtre, etc.
Dans les festivals, quand même un peu, parce que les gens le programment.
Bah ouais, mais ce n'est pas les festivals qui sont le mieux, le plus représentatif de toute leur histoire.
De toute leur histoire.
Voilà. Et. Quand je dis que la notion de public n'existe pas, c'est aussi que c'est ce qu'ils ont très bien dit, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont là, alors ils n'ont pas tous participé techniquement au spectacle, mais ils ont tous une familiarité. Moi, ça m'avait frappé quand les quelques spectacles auxquels ils m'ont invité, parce qu'ils ne m'habitent pas toujours. Donc, des fois, je ne sais pas, et j'arrive, il n'y a plus rien.
Vous faites surprendre en passant dans la rue.
Des fois, j'arrive, il n'y a plus rien, ils ne sont plus là. C'est parce qu'ils passent, en fait.
Ils vont quand même manger aux abattoirs, ça je l'ai dit.
Je vais faire une référence littéraire, c'est des furtifs. Ces gens-là sont des furtifs.
Et oui.
et donc, alors sérieusement, ils créent une familiarité. Je crois que Bertrand l'a bien dit. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, se sent impliqué, etc. Se sent autorisé à être là, à participer et tout. Et donc, ça devient comme ça une espèce de familiarité diffuse sur l'ensemble des gens qui sont là. Il peut y en avoir 2000, il peut y en avoir 25. Et tout le monde se sent impliqué dans une sorte de familiarité avec ces bricolages qu'il faut. Et la dernière chose que je voulais dire, et je pense que c'est important, c'est qu'une des dimensions de ce que tu appelles le merveilleux, c'est de transformer la honte en fierté. Et donc, ben, voilà, il y a des ouvriers qui bricolent dans les bagnoles, ça pue, ça graisse, ça blesse les doigts et tout. On n'est pas très fier de faire ce qu'on fait. Et quand on le fait avec générique, on devient fier tout d'un coup de faire ce qu'on fait. On fait de la cuisine, je le dis vraiment de façon très positive, on fait de la cuisine... fait de la cantoche, c'est pas des restaurants gastronomiques, on fait de la cantine pour des gens un peu fauchés, ben, quand ils le font avec générique, tout d'un coup, on devient fier de faire de la cuisine. Et cette capacité à faire passer de la honte à la fierté, je pense que c'est un truc qu'ils font très très bien, et que certaines troupes, d'autres troupes, dont je ne dirai pas le nombre non plus, ne font pas forcément. Et eux, ils le font. Moi, de tous les trucs que j'ai vus avec eux, j'ai vu ça. C'est-à-dire, j'ai vu, à un moment donné, des petites gens, ce qu'on appelle les petites gens, qui sont impliqués dans les spectacles, qui sont les petites mains, ceux qui font la cuisine, ceux qui bricolent les bagnoles, ceux qui conduisent des taxis, à un moment donné, passer de la honte à la fierté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais émerveillé, vraiment, de ça.
Voilà. On parle d'une histoire, pardon. Je n'ai pas répondu à la question.
Non, Michel a raison sur la honte, la fierté. Il y a quelque chose, et là, si on pense un peu diachronie, il y a quelque chose quand même qui a changé dans l'art en espace public aujourd'hui, et notamment dans l'idée des élus locaux et des directeurs des festivals, qui se posent régulièrement la question de quel public on vise. Et ils se posent la question de à qui on s'adresse. Et c'est vrai que toutes les équipes aujourd'hui, et c'est atroce pour les jeunes équipes, à qui on demande, mais votre spectacle s'adresse à qui? Quand on fait de l'art en espace public, ça s'adresse à tous les gens qui sont en espace public. Oui, mais qui? Et là où il y a quelque chose d'enchanté, d'émerveillé, d'émerveillant dans le travail de générique, Moi, ça me rappelle une devise d'une radio du service public, enfin des professionnels d'une radio du service public, qui disent « ne visez personne, touchez tout le monde ». Ne visez personne, touchez tout le monde. C'est FIP. C'est marqué sur les murs, à FIP. Et c'est exactement ça. On vise personne, on touche tout le monde. Et il y a quelque chose de cet ordre-là chez Générique Vapeur. C'est-à-dire que tout le monde peut être touché. Il ne vise personne en particulier. Et si on leur dit à qui vous allez parler, les gens. Et les gens, c'est certainement la catégorie sociologique la plus fine et la plus précise que sont capables d'utiliser Pierrot et Cathy. C'est-à-dire qu'on leur demande, mais à qui ça parle? Les gens. Et les gens, ben, ça suffit. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, d'utopique et d'historique dans ces artistes qui, je le dis au présent, qui s'adressent aux gens. Et c'est certainement ça, l'essence, une des essences des arts de la rue, qui est peut-être le plus en danger aujourd'hui.
On parle d'histoire, de présent, donc c'est d'écrire une histoire au présent, hein, que de retracer le parcours de Générique Vapeur, 40 ans de théâtre de rue, donc c'est quand même déjà une grande traversée. Alors, quand on lit le bouquin, on a l'impression d'y être, on a l'impression que vous étiez tous là, que vous avez fait 40 ans avec Générique Vapeur, c'est assez épatant. À partir de quelle source, de quelle trace on travaille pour écrire une histoire comme celle-ci sur... un art, des équipes artistiques
en fait,
qui n'ont pas forcément une âme d'archiviste.
On peut le dire aujourd'hui, c'est tout inventé, en fait, il n'y a aucune chose.
Ah, mais c'est formidable, voilà une belle utopie.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose qu'écrire des bios de gens du cinéma ou quelqu'un d'un bio de Charles Aznavour, qui avait tout conservé et qui avait toutes les archives. Il y a quelque chose de très très particulier avec les arts de la rue, c'est que c'est un art du fugace, donc c'est quand même très très compliqué de réussir à filmer, capter le son, l'image d'un spectacle des arts de la rue. En plus, selon où est le cadreur, on n'aura pas la même chose. Le cadreur est immobile, le cadreur se déplace avec le spectacle. Ce n'est pas le même film, ce n'est pas la même histoire, ça ne raconte pas pareil. Il y a des fois où j'ai profité d'un type qui était debout avec un caméscope sur le bord du trottoir pendant une heure de parade. Et parfois, une dame, et une fois je me suis rendu compte en cherchant, en fouillant sur YouTube, c'était une vieille dame qui manifestement était sur son balcon à Marseille avec son téléphone et qui a filmé pendant 40 minutes une parade, comme ça, quand on voit l'ordre de la parade qui passe. Donc, les sources sont très éparses, mais en sachant de toute façon que la source principale sera la mémoire. Et c'est génial quand on est journaliste, quand on est auteur, de travailler sur la mémoire des acteurs, la mémoire des gens qu'on a vus, la mémoire des gens qu'on fabriquait, la mémoire... Et puis ensuite, là, pour le coup, il y a peu de journalistes qui écrivent sur les arts de la rue, peu de médias qui écrivent sur les arts de la rue, peu de... Alors, heureusement, il y a eu... Il y a les murs Arsena, donc il y a un certain nombre de sources qui sont conservées, mais quand même pas beaucoup. Donc, c'est travailler sur un matériau extraordinairement lacunaire. Heureusement, il y a la mémoire de Pierre et Cathy. On s'est beaucoup arraché les cheveux sur des questions de chronologie, de date. Voilà, on voit le résultat. Il y a des endroits où, pudiquement, je ne dis pas la date. Parce qu'il y a des fois deux emprunts, on ne sait pas très 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 bien de quand a lieu l'événement. Mais on travaille sur la mémoire et on travaille sur l'émerveillement. Et Michel a raison de parler d'émerveillement. Parce que c'est quand même ça que ça raconte. C'est quand même ça que ça raconte. Vous écrivez sur un chanteur, à un moment ou à un autre, vous êtes obligé de parler de disque d'or, de ventre. L'Olympia est rempli, il n'est pas rempli. Quand vous êtes dans la rue, rempli, pas rempli, ça n'a aucun sens. Le succès, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un spectacle qui marche magnifiquement, qui est extraordinaire, qui est un spectacle bouleversant pour le public. Moi, j'ai un souvenir avec Opposito où tout le monde a les larmes aux yeux à la fin du spectacle, c'est merveilleux. Et soudain, il y a l'adjoint à la culture qui déboule en hurlant comme un dragon que c'était nul, que c'était pas bien, que c'était dangereux, que... Voilà. Donc, les perceptions sont... Et si on se fonde, si on se concentre sur le merveilleux, sur la trace que ça laisse dans la mémoire, l'histoire, elle devient très facile à raconter. Elle devient extrêmement facile à raconter.
Et donc, nous pouvons conclure sur cette citation de Garcia Lorca, qui est figure dans le bouquin. « Rien n'est plus vivant que la mémoire ». Merci à vous.
Merci à vous.
C'est le moment des questions, puisqu'on a posé pas mal de pistes. Alors, Cathy, on va avoir. Alors, d'abord, vous dire deux choses. D'abord, on va avoir un temps de dialogue autour d'un verre, ce qui sera aussi. On pourra poser toutes les questions qu'on a envie de poser, mais on peut en partager un petit peu ici. La deuxième chose, c'est que nous devions enregistrer, juste avant cet apéro-livre, ce qu'on appelle un parcours d'artiste avec Pierre et Cathy, où c'est eux qui racontaient cette histoire, évidemment en plus condensée. Mais il se trouve que pour une raison indépendante complètement de sa volonté, Pierre a dû partir, et donc on a reporté ce moment-là. Donc, on entendra bien, en complément de cette rencontre, la parole de Pierre et Cathy qui vont nous raconter avec leurs propres mots, leurs propres souvenirs, et même peut-être que nous aurons des inédits, cette aventure, parce que c'est aussi intéressant d'avoir la tessiture de la voix, la façon de s'exprimer des artistes. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de parole confisquée, mais que c'était intéressant d'avoir ce regard plus extérieur à cette aventure à l'occasion de la publication de cet ouvrage.
Alors Mona, si tu permets, je vais quand même dire aux gens que je connais ou que je ne connais pas que c'est un exercice terrible, j'ai l'impression d'être schizophrène, mais j'apprécie, j'apprends des telles choses que tu as imaginées. Gwenella, elle connaît son sujet parfaitement, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que c'est très, très bizarre. Voilà. Donc, je pourrais vous raconter des trucs quand on boit un coup.
Dans ce travail nécessaire de mémoire qu'il a fallu faire pendant qu'il a été rythmé par étapes sur 3 ans, et dont Bertrand a pris une énorme partie, en fait, ce qui est frappant, c'est le fait qu'un projet de livre fonctionne comme un puits dont on veut tirer les choses viennent au fur et à mesure. Et hier soir, je les entendais parler et il y avait des histoires et des choses qui ne sont pas dans le bouquin, qui sont sorties parce que ceci, appelle cela. Et bon, peut-être pas de quoi faire un deuxième tome, mais je pense que le portrait, le parcours que tu évoques pourra donner quelque chose de complémentaire. Et subitement, il me revient que dans le film d'anthologie Bombix, Carnet des arts de la rue, dont j'étais un peu responsable à l'époque, il y avait 5 portraits, 5 compagnies qui étaient suivies dans leur lieu de création, leur lieu d'habitation et dans leur projet artistique d'écriture, dont une des compagnies était donc générique. Et dans ce film qui fait quand même documentaire 1h20, il y a sans doute un bon quart d'heure où on voit l'équipe en tournée, mais aussi dans les abattoirs. Et comme c'est un lieu qui n'existe plus, c'est vrai qu'en fait, il y a peu de documents, je crois, qui rendent compte de ce que pouvait être ce cadre. Et ça, c'est accessible sur le site d'Arsena, ce film.
Nous le mettrons en avant, justement, à l'occasion de cette publication de l'enregistrement de cette rencontre. C'est le moment de poser toutes les questions que vous avez envie de partager avec nous. Ah bah alors là, je suis signée, on a été super exhaustif, on a parlé de tout, voilà.
Justement, trop, on parle pas trop.
Non, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde a envie de lire le livre, ce que je comprends. Et alors, en plus, vous avez de la chance, parce que non seulement vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi le faire dédicacer. Ce qui est quand même
Et vous pouvez en acheter plusieurs si vous
voulez. Parce que Noël est encore un peu loin, mais,
mais il faut penser déjà.
Il faut déjà y penser.
Il faut songer déjà.
Il faut déjà y songer. Et c'est quand même pas courant, hein, même si je sais que Claudine a fait de nombreuses coordinations d'ouvrages sur les arts de la rue, mais c'est pas courant d'avoir un ouvrage aussi complet avec des documents, des photos, des témoignages. Qui permettent aussi vraiment de traverser toute une époque, de traverser un courant, je disais, qui est celui du théâtre de rue, des arts de la rue, alors qu'on est aujourd'hui plutôt dans les arts de l'espace public. Alors, c'est marrant de voir d'ailleurs la façon dont les mots ont changé. Je rappelais qu'au départ, on parlait d'art, d'artiste en espace libre. J'adore cette expression.
Elle revient d'ailleurs.
Voilà, et elle revient aujourd'hui, donc c'est assez marrant.
Mais pour dire, en fait, parce qu'il existe dans mon expérience, mon travail éditorial depuis presque 20 ans, enfin bientôt faire 20 ans, dans tous les bouquins de Carnet d'Or, il y a des bouquins thématiques dont Orlimur d'ailleurs a été très partie prenante sur la danse en espace public, sur la relation au public, sur la question de la création sonore. Mais dans les monographies de compagnie, comme il y a Illotopie et Opposito en particulier, en fait, l'idée n'est pas de reproduire un schéma de monographie pour eux-mêmes, et que je pense que les projets éditoriaux doivent aussi évoluer et les livres pouvoir apporter autre chose. Donc, l'ambition, c'était de faire tout ce qu'on a dit qu'on avait fait là, mais en même temps de lui donner une portée plus transversale, plus large, à la fois dans le temps et en même temps dans l'impact de ces compagnies pendant le générique n'est pas la seule, et j'espère, parce que là c'est le premier vraiment débat qu'il y a autour du livre, mais ça sera intéressant de voir aussi comment certaines compagnies s'y retrouvent, s'y retrouvent pas, qu'est-ce que ça peut susciter comme discussion sur le fond, sur ces métiers-là, l'évolution du métier, les problèmes des jeunes compagnies. Je trouve que faut s'emparer de ça, et c'est fait pour ça aussi.
Ça aussi pose la question des moyens qui sont nécessaires pour produire ces formes. C'est-à-dire que ces moyens qui sont développés, qui sont considérables, est-ce qu'aujourd'hui on a encore envie de réenchanter les villes à cette hauteur-là? Dans le bouquin, il y a aussi effectivement Grain de Folie, ce festival qui a été fondé par Michel Bosseur et Claude Morissure, et c'est une chose improbable où en fait le quai de la gare est transformé en banquise avec des rouges ours polaires qui sont sur le quai de la gare. On est dans une utopie réalisée, c'est quand même un truc incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, on ose encore vouloir vivre des utopies, ou est-ce que ça ne se fait que dans les métaverses?
Là, je pense pas que la question soit uniquement la question qu'elle se pose à l'endroit de l'utopie. Je pense, et là pour le coup je prends ma casquette du stand culture, il y a quelque chose qui est extraordinairement sensible chez les élus producteurs, qu'ils soient les régions, les départements, l'État, les villes, les communautés d'agglo, les mairies d'arrondissement ou l'adjoint à la culture. Il y a une espèce de déformation dans deux sens. Un, la communication, donc qu'est-ce qu'on va raconter à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a montré? Et là où c'est complètement incroyable, c'est qu'on sait, on le voit, il y a des villes qui ne veulent surtout pas qu'on communique à propos de certains festivals. Parce que ils font venir dans le théâtre municipal, il y aura Franck Michael et Frédéric François. Et la ville ne veut pas que ça se sache qu'elle paye des concerts de Frédéric François et de Franck Michael parce que c'est le regard, parce que ceci, parce que cela. C'est le cas d'un certain nombre de villes de droite qui, entre nous, je veux le dire, d'un certain nombre de villes de droite qui n'ont aucun problème avec le tremplin d'artistes locaux, mais il ne faut surtout pas dire que c'est un tremplin de rap. Tout le monde sait qu'il n'y aura que du rap, et plutôt radical, mais il ne faut pas le dire. Donc il y a cette déformation, et qu'on sait qu'avec les arts de la rue, on ne sait pas exactement ce qui va être suscité. Et puis il y a une deuxième chose, qui est ce que je disais tout à l'heure, qui est qu'est-ce qu'on a envie et à qui on s'adresse. Et c'est toujours cette question de à qui on s'adresse, à quelle génération on parle, Est-ce qu'on fait un spectacle pour les jeunes? Est-ce qu'on fait un spectacle de boomer? Si on fait un spectacle pour les jeunes, il faut voir quel est l'âge moyen des décideurs culturels dans les collectivités territoriales. Donc la solution sera, on va faire un concert. Oh ouais, super idée, un concert pour les jeunes. Et si on ne fait pas un concert, ouais, non les gars, il faudrait faire autre chose. Bah, je ne sais pas, la danse hip-hop. Et cette idée que les publics sont segmentés, et qui est une idée qui traverse tous les lieux de décision culturelle depuis un certain nombre d'années, et cette idée de segmentation des publics. Que des gens arrivent, que des créateurs arrivent, que des producteurs arrivent, en disant « moi je fais des trucs pour les gens », ce n'est une langue qui n'est plus audible du tout.
C'est marketing.
De faire pour les gens. Mais ce n'est pas qu'une question de marketing, et très souvent d'ailleurs, c'est très sensé, c'est très bien intentionné, cette idée de dire à qui je m'adresse. Est-ce que je vais choquer des publics? Est-ce que je vais heurter des publics? Est-ce que le spectacle que je vais faire est une nuisance? Ce que disent tous les gens de cette génération, et après aussi, hein, mais les royales, génériques, oppositos, tous les gens qui ont fait des spectacles en déambulation, ils savent très bien que quand on fait un spectacle en déambulation, il faut enlever des voitures le long des trottoirs, il faut démonter les arrêts de bus, il faut démonter des poubelles, il faut démonter du mobilier urbain, et que, indépendamment du coût que ça a, ça a un coût social et un coût politique. Et pendant longtemps, les élus locaux considéraient que l'enchantement de la ville, ça valait, ça ne posait pas de problème avec l'arrêt des bus pendant une demi-journée, le démontage des arrêts de bus, l'interdiction de circulation. Et aujourd'hui, pour des raisons qui parfois sont excellentes, sont parfois d'excellentes raisons, ce n'est plus possible. Et ça change forcément le rapport aux spectacles monumentaux, aux spectacles qui font irruption dans la ville. Je ne parle même pas des versions de Taxi qui ont été jouées sans prévenir la police, sans prévenir le public, sans prévenir personne. Soudain, Taxi apparaît dans la ville comme ça et disparaît furtivement. Il y a un nombre incroyable de spectacles qui ne peuvent plus être joués aujourd'hui dans les villes en France.
Alors restons sur cette idée d'enchanter le monde. Voilà, ça nous fait du bien. Je propose qu'on poursuive la discussion. Merci pour ces compléments. Et je propose qu'on poursuive la discussion. D'abord, si vous avez envie de lui faire dédicacer l'ouvrage. Et poursuivre la discussion autour d'un verre. Puisque c'est quand même, là, c'est vraiment l'heure. Donc, 8h-10, on a bien mérité. D'accord, hein, on a bien carburé.